Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 121. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues...
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Mais... Et oui, c'est ça. Cette semaine, nous recevons avec nous Justine Smith. Justine, bonjour.
Bonjour. Bon matin.
Merci, merci. On est très content de t'avoir avec nous. On t'avait déjà eu dans un podcast il y a déjà plusieurs mois, peut-être un an, je me rappelle plus.
C'était le numéro combien, tu le sais-tu?
C'était celui de Transcendence.
Ah oui, c'est vrai, on t'avait fait subir ça la dernière fois. on s'excuse.
Oui, c'était mon film le plus pire de l'année passée.
Oh. Rien de moins.
Ouais.
On s'en souvient même plus de ce film-là, c'est comme... C'est vraiment passé dans le néant, là.
Ben, c'est drôle parce que...
Ça a clairement pas transcendé, en tout cas. Bon,
Paul, non, mais en plus, à plusieurs égards, un film comme Ex Machina, ça ressemble beaucoup à Transcendance dans les idées, puis dans les thèmes, mais...
Mais pas dans la qualité, là.
Non.
Ouais, puis avec 1% du budget, en plus.
Ah ouais, hein? C'est ça. Dans Ex Machina, moi, j'y reviens beaucoup à ce film-là. Je trouve que c'est un des films vraiment ingénieux qu'on a eu cette année. C'est drôle, en plus, j'ai réécouté. Je sais que les deux films, ils n'ont pas tant de liens, mais en même temps, on dirait qu'on ne peut pas s'empêcher de les comparer. J'ai réécouté Moon avant-hier, en fait.
Moi aussi, en fait, Moon, je l'ai revu.
Ok, ouais, c'est ça, j'ai revu. C'est un film aussi qui a une deuxième vie intéressante quand tu connais finalement le twist qui arrive comme à 20 minutes dans le film, qu'on révélera évidemment pas ici au podcast, mais c'est le premier acte, finalement, il est vraiment très bien fait. Puis justement, c'est un film qui marche quand on connaît un peu la patente, puis quand on connaît rien aussi. Puis l'atmosphère est vraiment bien rendue. Puis je pense que pourquoi qu'on peut justement peut-être faire une comparaison, c'est deux films de science-fiction intelligents, low budget, mais qui n'ont pas l'air low budget parce qu'ils n'essayent pas de s'attaquer à Hollywood, là où Hollywood va les bouffer tout cru, tu sais. Donc, c'est vraiment des films à concept, des films à idées, puis des films d'acteurs aussi. C'est ça qui est vraiment intéressant dans les deux cas. Tu sais, Sam Rockwell, évidemment, dans Moon, c'est incroyable. Mais dans Ex Machina, faut vraiment pas les oublier. Le trio de comédiens est impeccable. Puis c'est vraiment ça, en fait, qui élève le film pour moi. Donc, en tout cas, je veux pas partir sur une grosse tangente, mais pour moi, Ex Machina, c'est un des bons films cette année. Puis un bon divertissement intelligent aussi.
Ouais. Puis il y a vraiment comme une des meilleures scènes de l'année, là. Genre quand le gars il demande est-ce que tu vas te destroy, je sais pas trop quoi, le plan. Puis il est comme non, mais je vais te destroy ce dance floor. Puis il se met à danser, genre sur le disco, là. Cette scène-là est incroyable.
Ouais. Puis en fait, le film m'a même fait aimer Oscar Isaac. Moi, Oscar Isaac, j'étais toujours sceptique, en fait. Dans le Wynn Davis, puis dans le Most Violent Year particulièrement, je trouve pas qu'il passe. En fait, je lui cherchais un peu la qualité que les autres voyaient en lui, ou je sais pas, puis je trouve que dans Ex Machina, ça a pris tout son sens, là, c'est vraiment
En fait, il est à l'antipode de Llewyn Davis, c'est juste que Llewyn Davis, c'est un rôle tellement... il est pas détestable, là, mais il est très... il est hyper froid, là, puis tu peux dire, en n'ayant pas vu partout à Hollywood encore, tu dis c'est peut-être ça son range qu'il peut couvrir, mais finalement, il va complètement l'opposé dans Ex Machina, puis c'est vraiment une belle surprise, en fait, de le voir comme ça, là.
Ouais, absolument.
En attendant son rôle dans Star Wars, pour qu'il nous montre encore un autre aspect. Bon, juste pour parler rapidement, pour ceux qui ne connaisseraient pas Justine. Donc, Justine, tu es donc une critique de cinéma. Tu es l'éditrice de Sound On Sight. Mais depuis plusieurs mois, en fait, tu as commencé aussi à écrire pour plusieurs publications. Notamment, tu as écrit un article vraiment intéressant sur Cannes 1985, en mai dernier, pour le site Fandor. Tu viens aussi d'écrire un article pour Vice sur Thor. Donc, pas le super-héros, mais le super dieu de métal qui est venu live à Fantasia cette année.
Hey, parle-moi de ça.
C'est vraiment incroyable. Un beau show.
Ouais, c'est ça. De là, le concept rock concert là, de Fantasia, c'était littéralement ça, finalement. Là. Mais comment c'était, finalement, l'expérience, Justine? J'ai pas lu ton texte, donc... Je sais pas si tu peux en parler un peu.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était totalement unique, comme tous les événements de Fantasia. Ils vont toujours dans une direction exceptionnelle et pas entendue. Pour moi, le film était assez bon. C'était pas un film exceptionnel, mais rencontrer John Michael Thor, il est un grand cinéaste. Il voulait seulement parler de Todd Browning, des films de Frankenstein... Il adore le cinéma de monstres, alors c'était un grand plaisir. Il est tellement gentil, je vous dis, c'était presque une absurdité, presque une parodie du Canadien qui dit « Merci tout le temps, je m'excuse, c'est un plaisir de vous rencontrer, c'était incroyable. » Et aussi, j'ai rencontré son guitariste, Steve Price, il était aussi très sympathique, mais avec un peu plus d'un sens d'humeur, très, très, très noir. Et vous pouvez voir dans le film, c'est toujours lui qui a le sarcastic remark et tout ça.
C'est quoi le film, en fait, exactement, le concept? C'est un documentaire, c'est ça?
Oui, le concept, c'est on explore un peu ses débuts. Il était un bodybuilder, il a fait des compétitions avec Louis Ferrigno de The Hulk quand il était plus jeune. Il a décidé de faire une carrière dans la musique, mais ça n'a pas marché. Alors, il a fait quelques films entre-temps. Il est devenu comme un mari avec son petit maison dans, je crois que c'était en Colombie-Britannique, et rien faire pour quelques années. Mais il a décidé, non, je veux être le grand star metal. Et il fait son comeback tour depuis à peu près 1997. Alors, il est dans son comeback, mais c'est un comeback qui dure assez longtemps. Et il y a beaucoup de charme, mais c'est absurde, mais son énergie et sa passion, c'est presque la délusion. Mais c'est très moi, je pense qu'il est très sympathique. Alors, ça va loin.
Non, c'est ça. Puis en fait, ça relève aussi quelques absurdités du monde du spectacle, comme le fait que c'est un has-been, mais qu'en fait, il n'a jamais été been. T'sais, il n'a jamais été comme le groupe finalement qui aurait pu être. Un peu comme, tu sais, on voit souvent des spectacles de la relève musicale ou la relève de l'humour. C'est des gens qui ont comme 45 ans qui font ça depuis 25 ans. Là. Donc, ça relève un peu ça, certaines absurdités du monde du spectacle. Et comme Justine l'a dit, moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'étais là au documentaire et il est venu faire une performance live après. Et le gars, il a vraiment l'air de comme apprécier les fans. Il a vraiment l'air de comme... Il a l'air d'être terre à terre. Il a l'air d'être lucide sur sa situation. Puis comme tu vois dans le film, des fois, il donne des concerts devant une dizaine de personnes dans des petits bars. Mais il donne quand même son show, tu sais, il veut que chaque personne ait vraiment du fun. Puis il y a des photos qui ont circulé pas mal, là, notamment dans la page Facebook de Fantasia, du concert. T'sais, tu le vois monter entre les allées, prêter son marteau à un des spectateurs, donner le micro à la foule. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui interagit, puis qui veut que les gens aient du plaisir. Puis à cause de ça, on dirait que forcément, ça, t'as pas le choix d'être empathique avec lui et de te dire... bon, ensuite, est-ce que vraiment il mérite une grande carrière? Ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, comme c'est quelqu'un qui a l'air sincère et authentique, ben, tu sais, t'as pas le choix de cheerer pour lui. Là, c'est comme l'underdog un peu dans devant le monstre de l'industrie musicale.
Ouais. Mais dans le fond, c'est quoi la ligne? Est-ce que les gens, ils rient avec lui ou ils rient de lui ou ils rient pas pantoute? Ou... C'est quoi un peu la vibe?
J'étais avec lui parce qu'il se moque de soi-même, il sait qu'il est vieux, il sait tout ça. Et la musique, c'est absurde. Pour commencer, c'est le metal, c'est pas vraiment le comme high metal non plus.
Du metal et tease, là.
Ouais.
Un peu à la Spinal Tap, là, quasiment.
Ouais, c'est ça, genre.
Mais la bande-annonce, ça avait l'air pour moi d'un mélange de Spinal Tap et de The Wrestler, en fait. Ça me donnait vraiment cette vibe-là. Je sais pas si je me trompe, là.
Non, c'est une bonne comparaison, oui. Comme ses chansons les plus fameuses, c'est Anger. Et tu peux, c'est un refrain de Anger, plus ou moins, la chanson. Et beaucoup de chansons qui moquent de son caractère, de son personnage de Thor, alors comme Lightning Strikes Again et tout ça. Mais c'est tout. C'est fun, c'est très, très énergique. Et c'est vraiment, il donne tout. C'est un petit salle de l'université. Et c'est Madison Square Gardens pour lui.
Mm-hmm.
Et son énergie est si sincère que c'est pas vraiment... C'est difficile de moquer de lui, je crois. C'est vraiment...
Ouais, ça devient contagieux. T'sais, même si on connaît aucune de ses chansons, on se lève, on headbang avec lui, puis on a du plaisir. Là. Mm-hmm. Mais puis comme tu disais, Rémi, la comparaison avec The Wrestler est vraiment intelligente parce que on voit dans le film un peu aussi les petites touches de, derrière la scène.
C'est ouais, quoi, c'est ça qui est fort dans The Wrestler. Les moments marquants dans The Wrestler, c'est les petites entailles qui se fait, la minutie.
C'est ça. Là, tu le vois, c'est ça, enfiler sa ceinture de tête de mort en plastique. Mais là, finalement, il dit « Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je mette avant. Il faut que je mette mon espèce de plaque de métal sur mon chest. Ensuite, je mets la ceinture. » Après ça, ok, j'ai tué mes gants de spandex puis mes trucs. Tu sais, c'est un peu ce côté-là qui est vraiment le fun. Puis, tu sais, le gars, là, il est super, c'est ça, il est super humble. Il promène lui-même ses boîtes de t-shirts dans la tournée. Puis, tu sais, il essaie de les vendre avant le show pour faire un petit peu d'argent. Puis, donner les poignées de main avec les fans qui sont là. Donc, non, c'est. Honnêtement, tu sais, c'est pas le documentaire de l'année. Puis, le documentaire en tant que tel, la forme est assez conventionnelle, linéaire. Mais c'est l'expérience Fantasia qui fait que ça va au-delà, parce que formule, puis en fait c'est dommage parce que c'était pas sold out, puis je pense que le festival n'a pas assez vendu le fait qu'il y avait une performance après puis que lui était là, parce que c'est vraiment la performance qui faisait l'expérience, donc il aurait dû vendre peut-être un show live de Thor précédé d'un documentaire plutôt que l'inverse.
C'est vraiment l'année des rockumentary, hein, cette année là. Je sais que celui-là, tu sais, il est peut-être plus évidemment, c'est pas comme Montage of Heck ou Amy ou tout ça, mais il me semble qu'il y en a énormément des films sur. Il y en a toujours eu beaucoup, là. C'est quasiment un sous-genre en documentaire, puis il y en a abondamment, mais il me semble que particulièrement cette année, il y a une volonté de se rapprocher des icônes un peu, des vedettes, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe en rockumentary en 2015, définitivement. Mais bon.
Oui, voilà. Donc, sinon, ben écoutez, ça fait. On est déjà rendu à plus de la moitié du Festival Fantasia. Ça passe énormément vite, surtout lorsqu'on y travaille comme moi ou qu'on couvre le festival comme Justine. Et puis donc ça, je me demandais un peu, faire un tour de table un peu, c'est quoi vos coups de cœur du festival, vos moments forts, ou peut-être un coup de gueule, ou peut-être aussi, pas nécessairement un film, mais des moments que vous avez vécu. On peut commencer par toi, Pascal. Ça ressemble à quoi ton festival? Toi, t'étais en tournage, par contre, t'en as manqué une bonne partie.
Ben, c'est ça l'affaire. Moi, mon coup de gueule, c'est moi-même. Je suis mon prix citron du Festival Fantasia jusqu'à présent. Parce que j'ai rien vu, je n'ai juste vu un. Okay. C'est ridicule. Mais là, genre, je me reprends. Donc, la deuxième moitié du festival va être très occupée pour moi.
Mais t'as pas manqué la projection de ton film, là?
Ben non, mais c'est pas encore. Ben non, ça, okay. C'est
le dernier week-end. C'est le week-end fantastique.
Exactement.
Qui appelle ça?
Bon, c'est ça. Donc, je vais me reprendre, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai vu Turbo Kid.
Turbo Kid, genre le gros film attendu. Puis je pense aussi que c'est un film qu'on place beaucoup d'espoir dedans. Parce que c'est un film d'ici, c'est un film de genre, c'est un film qui a un certain budget. C'est une coproduction avec les États-Unis.
Je pense que la Nouvelle-Zélande, la coproduction Australie ou Nouvelle-Zélande?
C'est la Nouvelle-Zélande. Ok, ben ouais, c'est ça. Ok, bon, mais je me reprends. Merci de me reprendre, Rémi. Et donc, c'est ça, c'est un film qui porte beaucoup de poids sur ses épaules, j'ai l'impression, pour une frange de l'industrie d'ici.
Oui. Puis on dirait qu'on l'attend comme un messie, un peu, ce film-là. Je pense qu'il représente quelque chose de plus fort que le film en tant que tel, c'est-à-dire, tu sais, peut-être enfin du cinéma de genre québécois qui assume qu'il plaît à une niche au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. On vient souvent à ces comparaisons-là, mais tu sais, le poil de la fucking bête, c'est le poil de la bête, tu sais, je veux dire, ça vole pas haut, ça. Mais Turbo Kid, bordel, c'est comme, d'un côté, c'est absurde, mais d'un autre côté, c'est super gore, ça assume pleinement son public, là, niche, nostalgique, puis tu sais, on le voit, là, qu'il existe ce public-là, vous avez vu le succès viral de Kung Fury, puis ces affaires-là, là, puis en plus, la comparaison est pas complètement conne, hein, parce que je trouve que Turbo Kid, puis Kung Fury... Bon, Turbo Kid est une version plus narrative et posée qu'un Kung Fury peut être, et aussi meilleure, là. Moi, j'étais pas un grand fan de Kung Fury.
Ben, je pense qu'il est plus... je l'ai pas encore vu, là, mais ça a l'air d'être plus honnête sur son pastiche. Ouais. Un peu comme dans la lignée de Hobo with a Shotgun, dans le sens que, ben justement, un des producteurs du film, c'est le réalisateur d'Hobo with a Shotgun, Jason Eisner. Mais... tu sais, Kung Fury, ben, on avait parlé un peu, là, mais je trouvais que c'était très... on plug des éléments très caractéristiques des années 80, un après l'autre, sans trop continuité là-dedans, là, puis on y voit très numérique. Mais ouais, ça a l'air d'être plus honnête, Turbo Kid, dans sa forme.
Puis on dirait que, comme il n'y a pas tant que ça une surenchère de références. Quand il les a, on dirait que c'est beaucoup plus ça devient finalement bien plus jouissif dans Turbo Kid que ça pouvait l'être dans Kung Fury. Comme à un moment donné, il y a un personnage de robot qui dit, regarde, ah, je viens de perdre des cœurs, puis là on regarde, puis là c'est comme les cœurs dans Zelda, là, genre, tu sais, c'est comme ses points de vie, c'est genre, tu sais, c'est super drôle, les affaires comme ça. Bon, ça, c'en est un parmi plusieurs, mais comme il n'y en a pas à toutes les 5 secondes, disons qu'il y en a un à toutes les 3 minutes, mettons. Bon, tu me diras, c'est beaucoup, mais c'est quand même bien mieux dosé. Donc, la référence est beaucoup plus intéressante. Puis quand on l'attrape, on est comme un peu fiers de nous. Puis quand on l'attrape pas, ben, ça mine pas non plus l'intérêt du film. Parce que, je veux dire, il y a une histoire, puis il y a des personnages. Turbo Kid, c'est quoi, là, pour ceux qui sauraient pas? Donc, on suit le personnage du Kid. Personnage un peu avec un passé Batman-esque, là. Tu sais, ses parents se sont fait assassiner lorsqu'il était jeune. Et puis là... Il se promène en BMX, tu sais, c'est un loner, il se promène en BMX dans un monde post-apocalyptique. Mais si vous pensez tout de suite Mad Max, c'est beaucoup plus coloré et beaucoup moins trash, là, peut-être, que la proposition de Mad Max cette année. Mais bon, donc là, il se promène, c'est ça, en vélo, juste un fan de bande dessinée. Finalement, tombe sur le personnage de Laurence Leboeuf, qui devient comme un peu son acolyte, son ami, si tu veux. Donc ça, c'est un peu eux autres, mais il y a le grand méchant qui contrôle un peu l'eau aussi. Donc encore une fois, le parallèle avec Mad Max était assez fort, mais le traitement n'a rien à voir, donc vraiment, c'est complètement deux films et deux propositions et deux univers. Donc, le méchant, le vilain, qui s'appelle Zeus, interprété par,
Michael Ironside.
Michael Ironside, exactement, qui fait une des meilleurs jobs du film, d'ailleurs, au niveau jeu.
Il n'a-tu joué des méchants dans sa vie, cet homme-là?
Ouais, c'est comme... non, c'est ça. Puis là, tout ça, de fil en aiguille, finalement, le Kid, son ami, il y a comme un renégat cowboy qui se ramasse ensemble et qui tente un peu de renverser la suprématie de Zeus. Écoute, il n'y a vraiment pas tant plus à dire au niveau de l'histoire et de la trame. Donc, d'entrée de jeu, en fait, tu parlais d'un certain budget. Oui, il y a un certain budget. Mais d'un autre côté, il y a aussi un certain low budget et ce qui force le film à être inventif. Tu sais, quand t'as des fois, je pense, les ressources illimitées, tu peux juste décider de beurrer épais pour beurrer épais. Mm-hmm. Ce que Turbo Kid fait extrêmement bien, c'est d'en mettre plein la vue avec peu. Puis ça passe comment? Ça passe par le location scouting. Si on pouvait donner là, un Jutra, un Oscar, un whatever là, au meilleur location scout, là, c'est Turbo Kid qui gagne haut la main. Genre. Chaque lieu, là, la production value du film, la valeur visuelle, la facture passe vraiment par des lieux qui sont vraiment badass, là, qui look, qui sont beaux, qui sont riches, qui parlent, qui évoquent. Donc vraiment, je veux lancer des fleurs à cette partie-là du travail de pré-production qui a été fait parce que chaque scène, chaque lieu, c'est un wow renouvelé. Puis ça, dans le fond, ça coûte rien quand on y pense. C'est, mm-hmm. Fait, en tout cas, ça, c'est vraiment un pensée-y bien très inspirant.
On dit budget, mais il n'y a pas tant de budget là, avec... surtout qu'il y a des... Je veux dire, avec la bonne acteur qui ont eu à payer, juste avec les frais de base, le budget ouais. passe vite. Là. C'est un Absolument. Peu au-dessus d'un million, il me semble, le budget. Mais tu sais, mm-hmm. quand on pense à ça, Ego Trip a eu vraiment plus que ça pour ouais, faire le ça. Film, tu sais. Fait que, ouais, c'est quoi la comparaison qu'on fait rendu là? Non, c'est juste que c'est pas une production qui ont comme... tout déboursé de leur poche, mais ça reste que c'est un ultra low budget. Là.
Ben, ouais, puis c'est un projet de passion, ça, je pense que ça se voit. C'est un projet entre amis, ça se voit. Bon, est-ce que des fois, le trip il est autant contagieux qu'on pense? Des fois oui, des fois non. Je vais aller assez vite parce que je sais que Rémi, tu l'as pas vu, tu vas le voir. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir, donc je veux vraiment pas aller trop en profondeur dans le film.
Ouais, parce qu'une autre présentation, en fait, le 31, c'est ça. Mais c'est sold out.
Ouais.
Mais aussi, il sort en salle, je pense, le 14 août.
Ouais, c'est ça.
Ce qui, mine de rien, est pas donné pour tous les films de genre québécois. Tu sais, il y a des films, des fois, qui passent dans les festivals comme... Il y avait Disco Pat ou ce genre de films-là, que c'est très rare qu'ils sortent en salle après.
Les jaunes
ouais.
aussi.
Ouais, les jaunes, oui.
Non, c'est vrai. Puis, il va y avoir une sortie, puis je pense qu'il y a un engouement. C'est le genre de film aussi, c'est très jouissif, c'est un film party, donc je pense que le bouche-à-oreille va être assez fort. Moi, ça ne m'étonnerait pas, finalement, que le film fasse un certain succès. Je dis certain succès parce que je ne sais pas à quel point il va avoir une machine de... le distributeur là, qui sort complètement les, qui ouvre les valves au niveau du budget pour la promo et tout ça. Mais je pense que à un niveau plus underground, à un niveau culte, le film, les gens en parlent, les gens ont envie d'en parler. Et c'est très bien, c'est très bien. Mm-hmm. Donc, on dirait que j'aimerais quasiment pas ça aller vers mes critiques plus négatives du film parce que j'adore ce qu'il représente, ce film-là. Mm-hmm. J'adore ce qu'il représente, un vrai bon film de genre qui s'assume pleinement. Puis, donc, comme je disais, au niveau visuel, au niveau sonore, la musique, c'est le matos qui fait la musique. Super
aussi,
bon,
en ça fait, continue. Entre autres, c'est Jean-Philippe Bernier qui a fait aussi la direction photo du film. Là. C'est quand même cool. Le directeur photo qui assure en plus la musique. Là.
Ouais, ouais, ok, ok. C'est
assez
pas.
Unique. Là.
Ok, je savais pas que le DOP, c'était lui qui faisait la musique.
Ouais, ouais, ouais.
Ah.
Ça, c'est mais pas en même temps, c'est ça.
Bravo, Paul, bravo. Donc, tout l'artifice autour du film, l'enrobage autour du film est vraiment immaculé. C'est super beau. Ça fonctionne.
Ouais. Ça serait cool que la Sodec reconnaisse ça, mais en même temps, c'est tellement étrange la façon que le public général voit le cinéma de genre. Là. Parce que, tu vois, quand il y a un micro-succès à Cannes, par exemple, ou je sais pas, là, peu importe la Sundance, quand il y a un micro-succès d'un film plus dramatique, là, on en parle dans les médias. Puis quand t'arrives avec un Turbo Kid, là, c'est un film de genre, il y a du sang, il y a des... ça va plus chercher un public de niche, puis t'as quand même le succès à Sundance, mais dans nos journaux ici, ben, il y a eu quelques articles, mais on s'entend que c'est pas le buzz que d'autres productions vont avoir des productions plus dramatiques, disons, vont avoir dans des festivals internationaux, là.
Ouais. Mais je me demande justement si, je suis triste de dire ça, mais je me demande si c'est pas le fait que c'est un film qui est tourné en anglais, qui fait qu'un certain public, peut-être une certaine presse, le snob ici. Et ça sera un bon test en salle, voir si un film québécois tourné en anglais est capable de marcher. Ouais. Moi, j'en doute pas, mais en même temps, il y a Laurence Leboeuf, qui est une Québécoise francophone.
J'allais y venir, ça c'est un bon coup, parce que je trouve qu'on affiche les couleurs de films québécois, beaucoup peut-être par Laurence Leboeuf, justement. Mais ouais, on dirait que c'est comme un film laboratoire, on dirait qu'il n'y a pas eu tant de précédents, puis quand les chiffres vont parler, l'engouement... parle. Moi, je sais que, évidemment, tu sais, moi, mon fil Facebook est particulier, tu sais, je suis beaucoup d'amis cinéphiles, mais je sais que, par exemple, sur les médias sociaux, mon cercle, ne serait-ce que mon cercle, est très emballé par la sortie de Turbo Kid. Je sais pas à quel point ça se répercute dans le vrai monde, là.
C'est ça.
Mais, il n'y a pas de cas de figure, il n'y a pas tant de précédents, donc je lui souhaiterais vraiment, vraiment un succès. Mais pour revenir à la Sodec, moi, je pense pas que ce film-là aurait eu, et je pense qu'il n'a pas eu de subvention là, de la Sodec, mais en fait, c'est probablement parce que le scénario est bancal. En fait, le scénario n'est pas abouti. Un film comme ça peut se permettre... En fait, devrait, je pense, se permettre d'être extrêmement tête. Tu sais, tu présentes un élément dans ton premier acte, tu peux le faire revenir. L'aventure, elle est, tu sais, les boucles sont bien bouclées, bien rodées, bien serrées. Puis je trouve qu'il y a vraiment trop de moments où c'est juste une aventure. Il y a des affaires qui arrivent, mais c'est pas amené. Tu sais, comme exemple, il y a un méchant qui arrive, puis là, il se bat contre le méchant. Puis là, OK, c'est beau, on a battu le boss. Next, c'est quoi le prochain niveau? C'est quoi la prochaine mission? C'est quoi le prochain mandat? Point A, point B, on s'en va là-bas. C'est pas si bien amené, c'est vraiment pas... C'est pas tête, tu sais. Puis il y a combien de moments dans le film où le personnage, genre, il s'évanouit ou il passe out ou peu importe, puis là, il se réveille ailleurs, puis là, il y a comme un nouveau moment, un nouveau chapitre dans le film qui se développe. Tu sais, il y a pas... L'aventure est vraiment pas bien tracée, je trouve. Puis ça, ça coule le film, puis ça fait qu'à un moment donné, on sait plus exactement où qu'on s'en va, puis on suit plus autant l'intrigue, l'aventure, le parcours, le trajet... autant qu'on devrait, tu sais, on n'est pas complètement avec eux. Donc, moi, ça, je trouve que c'est une des grandes fautes. Puis, sans dévoiler rien, je trouve que peut-être la dernière demi-heure est un peu en queue de poisson aussi. C'est ça qui m'empêche d'être aussi de m'emballer autant. J'irai vraiment pas plus en profondeur. Je sais que c'est comme chien un peu de dire ça. Puis de pas,
on veut pas non plus dévoiler toute l'intrigue aux gens.
De pas supporter mes arguments, mais on en reparlera peut-être en fait quand Rémi ou d'autres l'auront vu. Toi, Justine, au fait, je suis curieux, mais est-ce que tu l'as vu? Tu as eu la chance de
le voir? Non, je l'ai pas vu. Je vais attendre pour où? Pour le 14 août, c'est juste plus facile pour moi, c'est d'attendre dans la file et tout ça pour pas une garantie. C'est beaucoup de temps gaspé.
Ben, c'est ça. C'est ça.
Ouais, c'est parce que Fantasia, c'est quand même victime de son succès. Là. L'année passée, je pense qu'ils ont annoncé qu'il y avait 60% des séances qui étaient sold out, qui étaient complètes. Puis, tu sais, nous, à la billetterie, on essaie toujours de vendre des billets de dernière minute. Mais, tu sais, des fois, c'est ça qu'on peut se retrouver. On a une passe média comme Justine, puis on attend une heure pour finalement se faire refuser l'accès. C'est un peu frustrant.
C'est déjà arrivé une fois cette année.
OK. Mais sinon, Justine, quel film as-tu pu rentrer?
J'ai déjà vu presque 10 films, Je dirais les meilleurs. C'est Tangerine.
Ah oui!
Ça a l'air bon, ça, ouais.
Je l'ai adoré. C'est un film tourné sur un iPhone.
Ouais.
Et c'est plus beau que la plupart des films que j'ai vus depuis les dernières 3 années.
Wow.
Ouais, c'est quelque chose d'autre.
Mais c'est complètement ridicule parce que quand tu vois l'image, ils utilisent l'iPhone, mais finalement, ils utilisent des objectifs cinéma, des objectifs prime, avec une application. En tout cas, ils en ont beaucoup parlé, hein, de la technique, finalement, de derrière la production de ce film-là. Puis une application précise qui a fait un bond incroyable parmi les cinéastes indépendants dans la foulée du succès, ne serait-ce que le succès de la facture visuelle du film, parce que t'es pas la première à dénoter que le film est très, très beau. Puis finalement, ça devient un genre de pari. Tu sais, à quel point on peut faire un beau film avec un téléphone. Donc, ça fait jaser. Mais est-ce que... Moi, j'ai une question pour toi, Justine.
Ouais.
Est-ce que...
Ouais.
Est-ce que ça sert le film, le fait qu'il soit filmé avec un téléphone?
Oui, tout à fait. Ah, c'est ce que je veux dire la prochaine fois. C'est un film qui est... à Los Angeles. Mm-hmm. Los Angeles, c'est peut-être la ville du monde le plus tournée parce que c'est Hollywood, oui? Mais quand même, avec leur iPhone, ils ont choisi spécifiquement pas pour l'image, pas pour même la facilité d'utiliser, mais plutôt pour apporter leur tournage dans des endroits qui est impossible de faire un tournage.
Ouais.
Alors, ça, c'est une version de Los Angeles que j'ai jamais vue. C'est extrêmement unique, extrêmement beau, mais quand je dis beau, c'est juste que c'est excitant, c'est nouveau. C'est conventionnel à un point, mais il y a aussi quelques moments et quelques shots qui seraient impossibles avec une caméra normale. Ouais, ouais. C'est un essence documentaire aussi, parce qu'avec un petit téléphone, même sur un rig et tout ça, c'est pas si, comment on dit,
c'est pas aussi précis.
Oui. Pour des personnes qui sont à l'entourage. Alors, ça fait une grande intimité. C'est très intime, le film.
Mm-hmm.
Et c'est une histoire d'amitié, de l'amour. Alors, ça marche. C'est parfait. Je ne dirais pas que c'est un outil que vous allez utiliser pour n'importe quoi. Dans ce cas-là, ça a bien marché. C'est très beau et c'est pas excessif. C'est pas, comment on dit, comme ego, c'est pas comme « Oh, regarde ce que je peux faire ».
C'est ça, exact.
C'est bon avec l'histoire, c'est bon avec les personnages, ça marche extrêmement bien.
Puis est-ce qu'on finit finalement par oublier ou est-ce que ça attire l'attention? C'est ça, on finit par oublier.
C'est pas tout de suite. Il y a juste quelques moments que vous dites « Fuck ». C'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je dirais même, si vous ne savez pas que c'est avec un iPhone, si vous n'êtes pas tout à fait, c'est pas votre passion, la cinématographie. Quelque chose que vous allez voir. C'est votre shot, c'est un peu plus digital, mais c'est 2015 et tout est digital. Ouais. Alors, non, c'est un film et l'histoire, c'est incroyable. C'est un élan tout de long. C'est. Si drôle, si aimant, ça va être le grand hit pour moi de l'année avec Mad Max. Sinon, j'ai vu quelques autres films. Nina Forever, c'est pas même fait sa première à Fantasia, mais c'est excellent. Et je crois qu'il y a aussi des billets. Alors, si vous voulez voir un film qui est très très noir, très très drôle et
Ça, c'est la femme qui revient à la vie dans le lit, là, puis qu'il y a comme un truc à trois, là.
Ouais. Moi, je l'ai adoré. À la fois, c'est extrêmement drôle. Son ex, qui est tout manglé de son corps, comme, mais mort, elle dit toujours les remarques sarcastiques et c'est beau, mais à l'autre côté, c'est si noir et c'est déprimant. C'est comme un début.
Un premier film.
Son premier film.
Oui, ouais. C'est un premier film, mais vous n'avez pas le sens du tout. Et le ton, c'est remarquable. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le ton de ce film-là?
Mais est-ce que c'est un huis clos? Est-ce que tout le film se passe dans la chambre?
Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est... Il y a beaucoup de scènes. C'est même pas comme quand le film continue à progresser. Elle part du lit même. Alors, on vient voir, elle devient le fantôme, on dirait. C'est pas vraiment un fantôme, mais elle laisse un grand... beaucoup de sang quand elle part, quand vous oubliez qu'elle est là. C'est toujours un grand mess à reparer. Mais elle commence à apparaître, même pas dans l'appartement, mais dans des autres endroits. Et des autres personnes peuvent la voir. Ça, c'est le fait incroyable du film. Ils ont pas fait... C'est pas dans leur tête. C'est vraiment là. Elle est vraiment là. Et c'est extrêmement noir, là. Et sinon, l'autre film, c'est bien sûr Roar. C'est l'essentiel.
Roar, c'est drôle parce qu'on l'avait... Il faut le voir pour le croire, là.
Ouais. C'est drôle parce que on l'avait écouté chez nous un peu il y a plusieurs semaines entre amis comme ça, puis on n'en revenait pas à quel point c'était ridicule ce film-là. Mais de le voir quand même à Fantasia, j'imagine que la salle était quand même bien remplie. On avait vendu beaucoup de billets, je pense. Ça devait quand même être une expérience assez plaisante, là. Toi, Justine, tu l'avais jamais vu avant le festival?
Non, jamais. J'ai pas même vu la bande-annonce. Je sais qu'il y a beaucoup de lions et de tigres et tout ça, mais c'est tout. Alors, je n'étais pas préparée pour ce qui est arrivé dans le film. Bon.
Est-ce que tu connaissais un peu l'histoire derrière le film, dans le sens que c'était des vrais lions?
Je connais l'histoire plus que l'histoire du film. Je connais l'histoire du film. Moi, j'adore Tippi Hedren aussi, alors c'est un extra, mais c'est une histoire absurde et vous pensez que le film... Je ne sais pas ce que j'ai pensé avant de voir le film, mais c'était pas ce que j'ai reçu. Pour le bon et pour le pire.
La tagline du film est vraiment intéressante. Ils disent « No animals were harmed in the making of this film. 70 crew members were.
» Mais l'histoire est vraiment plus intéressante que le film au final. C'est ça l'affaire. C'est que le film est vraiment... en fait, en sachant tout ça, tu as le petit stress que les acteurs se fassent blesser on cam.
Les lions et les tigres sauvages.
Mais l'histoire elle-même du film, c'est quasiment du burlesque. Là. C'est des gens qui tombent puis qui se cachent puis qui évitent des lions dans une grosse maison pendant une heure et demie. Il n'y a pas d'autre contexte vraiment dans le film. Là.
Mais c'est non, quoi? D'ailleurs, c'est quoi?
Ça, c'est qu'il n'y a pas d'histoire.
C'est tout, genre? C'est ça, le film?
Oui, ben c'est des... C'est genre une famille qui vont rejoindre le père dans une maison où lui élève des lions, puis lui essaie d'aller les rejoindre, mais eux, ils arrivent avant que lui, ils reviennent à la maison. Fait que ils sont comme pris dans la maison tout seuls avec les lions. Puis là, ils évitent les lions, puis là, en parallèle, t'as le père qui essaie de revenir pour aller, ben, protéger sa famille, là. Je fais des guillemets en passant, vu qu'on est dans un podcast, vous les voyez pas, là, mais je fais des gros guillemets, là. Ben, puis c'est ça, puis c'est des gens qui se cachent, puis là, ils sont au deuxième étage, puis là, ils sortent d'une fenêtre dans un petit étang pour se sauver. Puis là, un petit peu plus tard dans le film, ben, ils sont au deuxième étage, puis ils ressortent par la fenêtre, puis dans un étang pour se sauver, puis c'est juste ça, comme tout le long, là.
Ouais. Mais ce qui est fou, tu sais, t'écoutes ce film-là, puis comme, c'est que tu sens pas et où la limite entre le personnage et l'acteur, parce que... Les acteurs ont vraiment peur des lions, à chaque fois, là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est le réalisateur lui-même qui joue dans le film, qui est le rôle principal, et qui lui-même, il crie après les lions, puis il fait des grands gestes pour protéger ses acteurs, tu sais. Donc, puis lui-même, des fois, il se fait blesser, tu vois, à un moment donné, il a la main en sang, puis c'est son vrai sang, il n'y a pas d'effet
spéciaux. La réaction, c'est comme Monty Python, « It's just a flesh wound », et il saigne.
Ouais, c'est
absurde, et c'est comme incroyable, je sais. Tout au long du film, je ne savais pas si c'était à rire ou à pleurer. Ouais. Parce que c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Mais c'est tout à fait épeurant.
Ben oui.
On ne sait jamais quel lion est acteur puis quel lion est genre non-acteur. Là. Genre, tu ne fais jamais la différence entre les deux.
Lion acteur et non-acteur?
Ah, mais, en plus, la blague, c'est que le cinéaste a crédité en générique d'ouverture les animaux du film, parce qu'il dit que les animaux ont contribué à la création du film.
Donc, qu'ils n'avaient pas de contrôle. Il dit même, nous n'avons pas de contrôle sur les animaux. Alors ils sont des
animaux. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, tu as vraiment le gros message de la PETA ou je sais pas quelle association qui dit vraiment ce film a été surveillé, aucun animal n'a été blessé pendant le film. Il l'affiche comme un. C'est sa fierté de dire on a réussi à faire ce film-là. C'est parce que lui, c'est comme une preuve pour montrer que oui, il est possible de faire un film qui respecte les lions ou peu importe quoi. Mais c'est un projet, mais genre mégalomaniaque un peu étrange. Là.
Mais c'est pas un bon film au final. C'est pas vraiment un bon film. C'est comme tu l'affiches, t'as ta fierté, puis ben effectivement c'est juste là que tu peux avoir la fierté parce que le film est vraiment pas génial là, puis avec le suivi culte qui a pas été là finalement, on dirait qu'il apparaît là des années plus tard. Il se dit peut-être enfin les gens comprennent l'impact du film.
Mais ça, c'est surtout le travail du distributeur Drafthouse qui avait aussi distribué et présenté à Fantasia quelques années Miami Connection. C'est vraiment un distributeur qui est comme spécialisé dans retrouver des films oubliés, surtout aux années 80, puis les remettre au bout du jour pour refaire une tournée. Puis Roar, il y a quand même un bon succès aux États-Unis. C'est un film quand même qui fait jaser. Mais en même temps, c'est ça, c'est dur à juger un film comme ça. Quelle note tu lui donnes vraiment? Comment tu le juges? Parce que reste que c'est l'inédit, puis c'est quelque chose qu'on verra jamais. Puis en plus, c'est un film étape dans justement la sécurité des plateaux. Ça a été un des cas de figure où on a dit on ne peut plus faire ça, il y a des mesures de sécurité qu'on doit imposer. Et donc, parce qu'il y avait une critique d'Alexandre Fontaine-Rousseau sur panoramacinema.com où il donne la note 8, excellent au film, puis il compare ça à Fitzcarraldo, puis il fait un long texte qui défend ses arguments, dire que le film, c'est à chaque plan, t'en reviens pas que le film existe en tant que tel, donc c'est un grand film. Je sais pas toi, Justine, c'est où tu te places là-dessus ou si t'es sûre de ce que tu penses du film?
C'est une très bonne question parce que c'est difficile à vraiment le parser parce que pour moi, et une des raisons que j'adore la Fantasia, c'est parce que quand je vais au cinéma Fantasia, je vais voir quelque chose que j'ai jamais vu et je vais probablement jamais voir encore. Et Roar, c'est le plus grand exemple peut-être dans l'histoire du cinéma. Jamais on va voir un film comme ça encore. Et le film souffre à cause de ça parce que comme on a parlé, il n'y a vraiment aucune histoire et l'histoire ne fait pas de sens du tout. Mais c'est jamais ennuyant, c'est jamais plate. Et voir les animaux et voir même l'éléphant, c'est une expérience totale et c'est une expérience encore plus totale avec un grand... c'est pas un film à voir seul, on va dire. Si vous êtes seul dans votre... chambre, ça va être beaucoup plus ennuyant qu'avec un grand crowd de Fantasia, mais juger si c'est un bon film ou non, je dirais que c'est pas un bon film. Mais est-ce que j'ai beaucoup aimé le voir et est-ce que je vais le voir encore? Probablement que oui. Alors.
Mais pas seul.
Oui, pas seul, c'est vraiment. Non, avec tes amis, votre famille, vos enfants, c'est une expérience, ouais.
Parce que non, c'est vrai, c'est le genre d'expérience qu'on a le goût de partager. T'sais, c'est le genre de truc que c'est pour ça que la rumeur de ce film-là précède le film vraiment beaucoup. T'sais. Alors qu'à la limite, après ça, le voir, c'est quasiment rendu accessoire dans un sens. T'sais, c'est le genre de film que, un peu comme certains films comme Cannibal Holocaust, ou des films comme ça, tu dis t'as-tu déjà vu ce film-là? Genre, il y a eu un procès. Puis tu sais. C'est le genre d'histoire qu'on aime ça partager, puis ça fait partie de la légende du cinéma aussi.
Ouais. Je crois avec ce film-là où il y a aussi comme une grande tristesse parce que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, il y a encore moins de lions dans le monde, il y a encore moins de tigres. Alors j'avais cette sensation dans mon esprit très profonde que peut-être dans 10 années ou 20 années, quand vous montrez ce film à vos enfants, il n'y aura plus de lions dans le monde et ça va être la seule façon de comprendre cet animal-là. C'est pas comme le fun, côté de l'histoire, mais c'est quand même pourquoi ils ont fait le film, pour commencer. Il y avait des problèmes avec les poachers et protéger les lions, les animaux dans le... Et c'était vraiment un film misguided dans ce sens-là. Mais les animaux sont incroyables, sont si grands, si j'ai pas le mot pour le décrire parce que c'est la nature dans un contexte que j'ai jamais vu et je vais jamais voir encore. Ça c'est le court et le long de l'histoire.
Non, c'est ça, parce qu'en plus, tu sais, ça, c'est des félins, puis je veux dire, n'importe qui, tu sais, comme toi, Rémi, t'aimes beaucoup les chats, t'en as un, tu sais que des fois, un chat, ça va, tu sais, te griffer, puis ça va, tu sais, c'est moins prévisible qu'un chien, que d'autres animaux, donc, tu sais, imaginons, pour ceux, tu sais, un chat, mais qui pèse genre 300 livres, puis qui, d'un coup de patte, peut t'arracher la gorge, tu sais, donc... Ensuite, quand on parle d'un lion, mais là, quand tu en mets une centaine dans une grosse cabane à 3 étages, ben, tu te rends compte que la folie est bien présente.
J'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas fait le film avec seulement un lion ou un tigre. Tu sais, ça va être la même histoire, plus ou moins, mais beaucoup moins dangereux. Ils ont vraiment fait comme... OK, c'est soit un lion ou 150 lions. C'était pas comme un in-between. 20 lions, non. 20 lions, c'est pas une bonne idée. Ça doit être 150.
C'est peut-être la façon américaine de voir les choses. C'est bigger is better. Puis, bref, donc Roar, ça, c'était un gros coup de cœur du festival. Sinon, toi, Rémi, ça serait quoi un peu tes coups de cœur du présent festival jusqu'à présent?
Ben, moi aussi, après, j'ai une dizaine de screenings. Fait que j'en ai quand même vu une coupe à travers le festival. Je pense pas que j'ai vu de grands films encore. Il n'y a rien qui a changé ma vie dans ce que j'ai vu au festival. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Un peu comme Justine disait, il y a des Fantasia. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de films que tu verrais pas tout seul à la maison. Parce que si tu les vois tout seul à la maison, c'est moins... disons qu'il y a beaucoup de films bonbons là, qui sont moins plaisants quand tu regardes ça. Là. C'est quand tu as une crowd de quasiment 700 personnes, ça change complètement l'expérience. Mm-hmm. Puis on va pouvoir en parler ensemble parce que moi, je pense qu'une des meilleures soirées que j'ai eues, c'est le duo que j'ai vu avec toi, Paul. Mm-hmm. On a vu Assassination Classroom et tout de suite après, on a vu Cooties. Pour moi, ça a été vraiment une belle soirée plaisante. Là. C'est pas deux grands films, mais c'était un What the Fuck Japan.
Adapté d'un manga.
Vraiment, vraiment, là, ça, adapté d'un manga, un professeur extraterrestre dans une classe de jeunes, en fait, qui menace de détruire le monde. Mais il donne la chance aux jeunes, en fait, de l'assassiner avant la fin du semestre, avant qu'il exécute son plan de destruction du monde. Donc, il donne comme une chance à la planète en éduquant les jeunes pour se faire tuer. C'est un peu weird là, comme prémisse, là, je sais pas comment l'expliquer autrement.
En même temps, c'est une grosse métaphore sur l'importance de l'éducation, puis l'élève doit dépasser son professeur. Là. C'est un thème qui est très cher au Japon. Là.
Ouais, fait que y a ça. Puis tout de suite après, on a vu Cooties, qui est un énième film de zombies. Là, mais je vais vous avouer, je suis un peu saturé sur les films de zombies. Mais là, ils ont trouvé leur petit twist au début, qui est des enfants zombies. Donc, c'est des croquettes de poulet d'une école primaire ont été... donne le chicken pox là, puis les enfants ils perdent toute capacité mentale et deviennent zombies et se mettent à mordre les professeurs, à manger les professeurs. Puis c'est un film très série B avec Elijah Wood, avec un bon casting télé en fait là. Il y avait Rainn Wilson qui joue Dwight dans The Office. Il y a le gros de Lost, je sais pas c'est quoi son nom là, mais je pense que tout le monde comprend avec ça là, le gros de Lost là, qui fait un stoner, fait que tu sais, t'as vraiment comme
qui fait un stoner qui fait rien d'autre dans le film
qui fait
dans
rien son du camion film, finalement là.
Ouais. Il y a juste genre des cutaways à lui qui capote dans son char après avoir mangé trop de champignons là, c'est tellement drôle.
Mais c'est un beau film avec plein de références puis qui se prend pas au sérieux du tout, timing comique hyper serré en fait là, c'est vraiment bien fait au niveau des dialogues, au niveau des punchlines, mais si ça reste un film de fantasia, c'est quelque chose que j'aurais pas autant apprécié tout seul dans ma chambre, mais de voir ça avec la crowd, c'était une belle soirée là.
Ben Rémi, je te coupe, mais je sais pas moi à quel point c'est juste un film de fantasia, parce que moi je trouvais que c'était particulièrement bien réussi. Scénario super, ben La trame globale est très, très classique, mais c'est vraiment dans les répliques et surtout l'investissement du casting. Tu sais, les acteurs, ils s'investissent dans le jeu. C'est super le fun. Tout le monde a vraiment l'air d'avoir du plaisir. Puis ça, c'est contagieux. Et aussi à noter, c'est une production de la boîte de prod d'Elijah Wood, de Spectre Vision, qui a aussi produit notamment Girl Walk Alone at Night. Puis, tu sais, Elijah Wood, de plus en plus, là, moi, c'est un acteur que je respecte énormément. Puis, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui prend des risques, puis qui n'a pas peur d'aller dans des films de genre, puis d'aller dans des films à micro-budget. J'ai regardé aussi cette semaine, pas Fantasia, mais j'ai vu Set Fire to the Stars à propos d'un fameux poète américain, ben en fait, non, irlandais, qui a fait une tournée aux États-Unis. Un film en noir et blanc avec Elijah Wood, encore une fois, qui joue un aspirant poète qui va l'accompagner en tournée. Parce que c'est juste pour dire que, tu sais, Elijah Wood sort de comme la plus grosse trilogie de notre époque, de notre génération, Lord of the Rings. Puis, il n'a pas peur de prendre des risques plutôt que d'exiger les premiers rôles. Puis de toute façon, il n'y a pas le casting pour ça. T'sais. On s'entend qu'il a quand même un drôle de visage. Il a l'air assez jeune quand même, même s'il doit approcher genre la quarantaine. Là. Mais non, moi, je le respecte beaucoup, cet acteur-là. Puis c'est le fun de le voir année après année à Fantasia avec des nouveaux projets. T'sais, l'année passée, il y avait Open Windows, notamment.
Puis il y a eu, dans les dernières années, un Maniac, pour moi, qui est comme un grand film d'horreur. Là. C'est le remake, là, en fait, qui joue le rôle principal. Là, puis c'est vraiment incroyable, ce film-là. Mais effectivement, t'sais, tu sais, comme tu dis, tu sais qu'il n'y a pas le casting de premier rôle. Il n'y a pas une face de lead actor comme un Chris Pratt, mais il réussit à faire son chemin dans les films de genre, les films de niche. Puis il fait vraiment bien ça, en fait. Puis il choisit des bons projets, là, des bons projets de genre. Puis Cooties, en fait, c'était dans cette lignée-là. C'était vraiment, vraiment réussi. Puis c'est ça, tout le monde a du plaisir sur cette production-là. Ben, juste avec le casting, là, c'est comme... Tu peux, you don't go wrong, là. C'est toutes des gens, en fait, qui ont trouvé des personnages aussi hyper typés, mais quand même originaux, là. Ils sont partis dans des directions assez originales, puis ça donne une belle dynamique de groupe, là.
Ouais, ben aussi, je voulais te revenir sur un commentaire que tu m'avais fait avant que le festival commence. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu en pensais, mais tu me disais que tu trouvais dommage que le festival Fantasia semblait s'éloigner de plus en plus des films indépendants pour aller vers les grosses productions. Je trouvais que cette année, il y avait comme moins de documentaires, moins de films indépendants. Puis bon, le festival n'est pas non plus à l'abri de tout reproche. Donc, je voulais savoir un peu, après que la moitié du festival est passée, est-ce que tu es toujours de cet avis-là? Est-ce que tu trouves que c'est un peu dommage qu'on déroule le tapis pour les peut-être plus grosses productions?
Je me souvenais pas d'avoir fait ce commentaire-là clairement comme ça. Là. Je sais pas trop, là, à date, effectivement, il y a peut-être un peu moins de documentaires que les années précédentes, mais à date, j'en ai déjà vu deux documentaires qui étaient vraiment bons, là. J'ai vu le remake Remix Rip-Off, qui est pas encore diffusé, en fait, c'est le 4 août, puis je fais de la promo parce que j'ai un court-métrage qui passe juste avant, donc c'est comme... mais c'était vraiment un bon documentaire sur le cinéma turc des années 70-80, qui est un cinéma assez particulier parce qu'il faisait des rip-offs des films américains, donc tous les gros succès. Il y a un Star Wars turc, il y a un Rambo turc, puis c'était des films qui étaient shootés en 8 jours, 9 jours, un long métrage. Il allait voler la musique, il allait voler des images des films américains, il n'y en avait rien à foutre. Puis dans le documentaire, tu rencontres des artisans de cette génération-là qui ont fait chacun quelques centaines de films. Il y en a un qui dit j'ai travaillé sur 1700 productions dans cette période-là. Parce que des fois, là, en une journée, ils travaillaient sur trois films différents dans la même journée. Ça fait que c'était bon juste ça. La production à la chaîne, mais c'est tellement particulier comme niche de film.
C'est comme la pornographie, finalement. Tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc qui est mort vers la fin des années 80, début 90. Quand non,
la pornographie,
il
y en a encore, Rémi.
Hein?
La pornographie, il y en a encore.
mais c'est ça, c'est un truc qui est mort parce que, ben là, il y a Mané, un peu plus de règlements sur les droits d'auteur, là. Mais ouais, c'est ça, le sujet est tellement intéressant, puis c'est... Bon, ben, pour moi qui est fan de cinéma, c'est un... Puis probablement les gens qui écoutent notre podcast sont fans de cinéma, là. C'est une belle vision de ce sous-genre-là, en fait, là, qui est très, très méconnu. Fait que c'est peut-être une belle expérience de voir le film. C'est, en une heure et demie, ça résume très bien son sujet. C'est très classique, là, c'est les entrevues des extraits de films, là. Mais ça résume bien le sujet du cinéma turc.
C'est ça, puis excuse-moi, pour récapituler, dans le fond, toi, t'as fait un court-métrage en collaboration avec Fantasia qui va passer juste avant cette projection-là, c'est ça?
Oui, ben, c'est le projet, en fait, qui est... on fait ça avec Kino à chaque année. Il ouais. y a trois longs-métrages avant lesquels il y a un Kinoette qui fait un hommage, dans le fond, au film hommage ou... pastiche ou inspiré de...
Ouais, OK, ouais.
Donc, moi, dans la liste, j'ai choisi celui-là cette année, puis je trouvais tellement ça intéressant, là, fait que j'ai fait un... C'est un petit film, là, un petit film sympathique, là, j'ai vraiment de le présenter. En fait, c'est encore en production, là, j'ai même pas fini de le monter, là. C'est vraiment sous la forme de Cabaret Express, quasiment, là. On fait un film en quelques semaines.
Semaine, mettons, là, ouais,
c'est ça.
C'est quoi, c'est avec un transfert 2K? J'imagine que ça a été tourné en HD, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, j'ai tourné en VHS. Puis on a eu un bug technique qui, en fait, la deuxième partie, c'est une série de photos au lieu de... C'est quasiment la jetée, là. Hey my God, on a... On a un petit pépin, ça vient de donner une toute autre esthétique au film. Wow. Mais ça va être intéressant. Wow.
Hey, peut-être que la GT, c'était ça à la base, hein, c'était pas
hey my
ça.
God.
C'est ça, c'est juste le still photographer, finalement, ils ont perdu les bobines, puis finalement, c'est le photographe de plateau qui a fait le film.
Hey, la panique quand j'ai vu ça, mais en tout cas, c'est ça va donner une belle esthétique au film. Je pense que ça va être plus original que ce que je voulais faire de base. Là.
Ça a-tu été vraiment complexe de trouver une caméra VHS en état de marche?
J'en ai déjà une, en fait. C'est un ami qui me l'avait donné après que j'avais mis une petite annonce sur Facebook il y a quelques années là, que je cherchais ça. Puis c'était la première fois que je tournais ça à long terme. Je suis pas à long terme, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus gros, là, que c'était pas juste une props dans le film. Là.
Ouais, mais t'avais pas fait ton autre film à Fantasia il y a quelques années avec ça? Là,
en fait, on avait triché, on avait tourné en HD, puis après j'avais fait un transfert VHS. Ça n'avait pas été tourné direct en VHS, mais là on a...
Là, c'est the real deal. Là.
Ouais, ouais, ben c'est ça. VHS is the new HD, comme on dit. Là. Comme on l'étant moi, là, parce qu'il y a comme pas grand monde qui dit ça. Là, mais
c'est quand, Rémi? C'est vraiment intéressant, ça.
C'est le 4 août. Le 4 août à 17h30.
Oh,
mais pour vrai, le long métrage vaut vraiment la peine, le documentaire. Là, c'est... moi, un movie about movie, c'est toujours ça me le vend bien. Là. Puis l'autre documentaire en fait que j'ai vu, c'est Raiders, qui est un movie about making movie, qui est un documentaire vraiment intéressant sur un groupe de jeunes en 82 qui ont commencé un projet hyper ambitieux qui est un remake shot par shot de Indiana Jones, le premier, donc Raiders of the Lost Ark. Puis c'est des enfants de je pense qu'ils avaient 11 ou 12 ans quand ils ont commencé ça. Tourner ça avec la caméra des parents. Puis ça a pris 7 ans à tourner. Donc tu vois les jeunes vieillir tout au long du film. Les jeunes, ils ont pris chacun leur côté dans les années 90. Puis le film n'était pas complété. Il restait une scène à faire. Mais il y a eu comme un cult following du film. En fait, la cassette s'est promenée dans les festivals. C'est devenu un peu comme dans le black market du cinéma. Là. La cassette se passait. Puis genre Eli Roth, entre autres, qui organisait un festival... qui est tombé sur cette cassette-là, puis qui a commencé à le donner à plein de gens un peu plus reconnus. Aussi, Harry Knowles, là, de It Ain't Cool News, qui est tombé sur la cassette. Ça, c'est des méga nerds là, qui sont tombés là-dessus, puis qui ont comme fait, c'est quoi cette affaire-là? Des jeunes qui refont Indiana Jones.
Comme
shot
quoi,
par shot, là. Hein?
Comme quoi, Eli Roth a bel et bien fait quelque chose de bon dans sa vie.
C'est ça, puis dans le fond... Des années plus tard, donc en 2013-2014, la réputation du film était comme plus à faire, la réputation de ce film étrange-là, cet ovni-là, là, c'est quoi, là, genre des jeunes qui font pendant 7 ans un remake d'Indiana Jones, c'est quoi le but, c'est quoi le point, tu sais? Puis ils se retrouvent en fait, puis ils refont la scène qui manquait, c'est la scène d'avion où Indiana Jones se bat contre, je me souviens pas du nom de l'acteur, là, mais... en plus, il apparaît dans le documentaire, là. Mais en tout cas, c'est un gros musclé bâti, là. Ils se battent à côté d'un avion, puis Indiana Jones sauve la situation, bien sûr. Donc, il restait cette scène-là à faire, puis ils se retrouvent des années plus tard pour faire ça. Fait que t'as encore le même jeune qui a joué Indiana Jones pendant 7 ans, dans la production originale, qui est encore là. Le gars qui était derrière la caméra est encore là. Ils sont tous là, puis ils se retrouvent pour faire la scène finale.
Donc, mais après des années... Adultes, c'est ça.
C'est ça, ils ont comme 45 ans, quelque chose comme ça. Mais après s'être séparés, ils se retrouvent juste pour compléter le projet qu'ils ont fait toute leur enfance, dans le fond. À travers toute leur enfance, ils ont travaillé juste sur ce projet-là. Puis là, ils finissent ensemble, enfin, des années plus tard. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est au-delà de la production elle-même, qui est c'est complètement fou là, comme truc là. C'est vraiment unique, tu sais, surtout dans les années 80 où t'avais pas nécessairement de VHS pour voir plan par plan c'était quoi le film. Il fallait qu'ils s'en souviennent, aller voir au cinéma puis se souvenaient des plans qu'ils avaient vus dans le film. C'est vraiment basé là-dessus qu'ils l'ont fait. T'avais pas toutes les guidelines aujourd'hui, la facilité d'accès qu'on a à Indiana Jones là. Mais au-delà de ça, c'est toute la relation d'amitié en fait, parce que c'est des jeunes qui ont grandi ensemble. Puis que, tu sais, se questionne sur est-ce qu'on a perdu notre enfance à faire ça ou finalement notre enfance était comme mille fois plus awesome parce qu'on a fait quelque chose de cool comme ça. Mm. Fait que là, ils se retrouvent, puis c'est là-dessus, là, c'est à propos de ça, là.
Cool, cool, cool. Donc, c'est quoi, Raiders, The Greatest. Non, c'est quoi déjà le titre? C'est comme un long titre, là.
Raiders, The Story of the Greatest Fan Film Ever Made.
Voilà. Sinon, pour ma part, rapidement, il y a deux films qui se démarquent. Un, c'est un classique. On n'a pas vendu beaucoup de billets, je suis un peu déçu. Mais c'est Battles Without Honor and Humanity. En fait, c'est le premier d'une saga de cinq films originaux. Ensuite, il y a eu genre les New Battles Without Honor and Humanity, mais c'est avec un nouveau réalisateur, des nouveaux acteurs. Mais les cinq originaux, c'est donc dans les années 70. Et c'est réalisé par Kinji Fukasaku, qui nous a donné Battle Royale notamment. Mais si vous ne connaissez que par Battle Royale, allez voir ce film-là, parce que dans les années 70, c'était vraiment quelqu'un qui faisait, qui excellait dans le genre du film de Yakuza, et dans un cinéma aussi très brut, très énergique, qui a plein de choses à dire. Son cinéma ressemble beaucoup au cinéma de Scorsese des premiers temps, donc ainsi qu'un certain cinéma de Tarantino. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu de l'influence là, sur ce style de cinéma-là, avec tu sais, une espèce de ironie cool, puis des chansons pop qui jouent à travers des massacres filmés à l'épaule. Pour moi, c'est vraiment un classique du cinéma japonais, et ça se passe vraiment, c'est ça, c'est dans les ruines d'Hiroshima, dans ces quartiers pauvres, que tu sais, des gens s'unissent dans des gangs de rue et essaient de comme survivre tant bien que mal. Donc il y a aussi vraiment une espèce de commentaire politique très pertinent derrière tout ça. Ça joue le samedi 1er août à 2h50. Mais ma grosse claque pour l'instant qui se place dans les films de l'année, c'est Tag de Sion Sono. Sion Sono,
oui, évidemment. Oui, t'as vraiment aimé ça?
Ouais, ouais, j'en ai un peu parlé sur Facebook pour ceux qui me suivent.
Un peu, ouais.
Mais c'est ça, c'est Sion Sono, c'est un de mes cinéastes préférés. C'est aussi un cinéaste qui a pas mal marqué l'histoire de Fantasia, hein, parce que il a notamment présenté Love Exposure en, je pense, 2009, quelque chose comme ça. Gros film de 4 heures, super bon, super intense, qui a créé un peu la surprise. Avant ça, il avait déjà présenté Suicide Club avec sa fameuse scène d'ouverture. Dernièrement aussi, ben l'an passé, je pense que c'était au FNC qui avait Tokyo Tribe, ou c'était à Fantasia. Je pense que c'est à Fantasia qui avait Tokyo Tribe. Et donc cette année, il a produit 6 films au Japon, 6 longs métrages. Fantasia en présente 3.
Ça n'a pas de bon sens,
man. C'est incroyable. Mais il est vraiment dans sa... C'est ça, il
n'a pas de bon sens.
Ah non, ça n'a aucun bon sens. Et pourtant, la qualité n'en pâtit pas. Hein. C'est pas juste qu'il fait une passe de cash, parce que ce n'est pas du tout le cas. En fait, je pense que ce qui lui permet un rythme aussi rapide, de un, c'est que c'est pas des scénarios originaux. Ouais. Dans le cas de Tag, c'est basé sur un roman dont il y avait déjà eu une adaptation en film au Japon en 2008. Tokyo Tribe, par exemple, l'année passée, ça, c'était adapté d'un manga. Je sais que Love and Peace aussi, il me semble que c'est adapté d'un manga, mais je pourrais me tromper pour celui-là, je suis pas sûr. Mais c'est ça. Donc, de un, il écrit pas lui-même ses scénarios, mais ils adaptent pour lui, pour ses thèmes qui lui sont chers. Et de deux, en fait, c'est que c'est quelqu'un vraiment qui va privilégier la première prise et qui va privilégier une certaine énergie du tournage, une certaine force qui va causer, en fait, des maladresses, puis peut-être des prises qui sont peut-être moins bonnes, une caméra des fois peut-être chancelante, mais ça lui donne en même temps sa force et sa fougue. Tu sais, son cinéma, c'est un cinéma tellement contagieux, c'est un cinéma vivifiant, je trouve. On écoute ses films, puis surtout comme un film comme, mettons, Why Don't You Play in Hell, qui est à propos de jeunes cinéastes qui veulent faire des films coûte que coûte, ben, crème, t'as juste le goût de sortir ton crayon, écrire un scénario, prendre ta caméra, puis aller shooter dans la rue, tu sais. Un peu peut-être comme peut l'être le documentaire Raiders.
Mais c'est vrai que plus que tu fais de prise, plus ça devient mécanique, puis ça se sent que dans son cinéma, c'est vraiment de l'instantané, puis c'est, comme tu dis, il y a une fougue, là, mais comme, ce qui est vraiment cool, en fait, avec ses films, c'est que tu reconnais son style, tu vois qu'il... il a pas juste shooté le film, tu sais, il l'a pas juste canné.
Non, c'est ça.
Ça lui ressemble, tous les films lui ressemblent, même s'il en a fait 6. J'ai juste vu les bandes-annonces, en fait, des 3 films qui sont présentés à Fantasia. Puis les 3 bandes-annonces, tu reconnais Sion Sono dedans. C'est pas, sa facture visuelle est là, il a pas juste canné le film, comme on dit, là.
Ouais. Ouais, puis je pense que, plus que j'écoute de ses films, plus que j'apprécie son œuvre globale. Et, c'est ça. Ses films, souvent, c'est des inclassables, puis, tu te dis, le film, tu essaies de le décrire à quelqu'un qui n'a jamais fait un film de Sion Sono. J'ai fait ça beaucoup dernièrement. Puis, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui ressemble à un film de Sion Sono qu'un autre film de Sion Sono. Surtout avec ses productions plus récentes. Peut-être qu'au début de sa carrière, il faisait des films un peu plus conventionnels. Mais,
c'est même pas le cas. Comme, vous regardez Suicide Club et vous pensez que ça va être comme un classique J-horror. Il y a des séquences de musicales et des absurdités, des cultes. Même au début, c'était un cinéaste incomparable et qui avait une vision unique. C'est un de mes préférés.
Ben, je crois que la différence, c'est que maintenant, il y a vraiment carte blanche. Je pense qu'il a prouvé en fait ce qu'il pouvait faire et que c'est pas pour rien qu'il fait 6 films en une année. Je pense que les producteurs au Japon, ils font juste lui pitcher de l'argent puis ils veulent un produit quelques mois plus tard. Mais bon, le pitch attack, c'est ça, la bande-annonce. Vraiment, ça vend pas du tout le film. J'ai été vraiment surpris et je vous gâcherai pas la surprise en vous dévoilant tout ce qui se passe, évidemment, mais c'est vraiment un film plein de surprises qui étonne. Puis ça, si on s'en est aussi, c'est une de ses forces. On pense qu'il a atteint un plateau, puis que son prochain film, finalement, on va finir par être déçu, puis qu'il nous a tout montré déjà. Mais à chaque fois, il réussit à me surprendre. Puis tu sais, même en étant un gros fan, puis en ayant des attentes, Tag, encore une fois, vient me donner une claque. Grosso modo, c'est l'histoire d'une jeune fille à l'école. Je vais juste vous raconter la scène d'intro, parce qu'ensuite, ça va dans plein de directions. Je l'avais décrit sur Facebook comme étant une espèce de paprika au royaume des écolières japonaises. Ça commence, c'est ça, c'est une jeune classe d'écolières dans une école uniquement féminine, dans le bus du matin, s'en vont à l'école, et soudainement, un coup de vent coupe le bus en deux complètement, et tout le monde est comme... éventré ou la tête décapitée, sauf Mitsuko, la personnage principale, parce que elle était penchée pour ramasser son crayon qui venait de tomber, vu qu'elle écrit des poèmes dans son carnet. Donc là, elle se relève, et puis là, elle a du sang partout sur son uniforme, tout le monde est mort autour d'elle, puis elle se met à capoter, donc là, le bus s'arrête, elle descend, puis là, elle se met un peu à vagabonder comme ça, traumatisée, évidemment, et elle sent le sang, elle sent le vent qui arrive vers elle, puis il y a comme des bruits et une caméra subjective au ras du sol avec les feuilles mortes, tout ça qui s'approche d'elle, puis elle se met à s'enfuir, puis c'est comme un slasher, mais l'ennemi c'est qui? C'est le vent. Puis là, il y a vraiment une scène incroyable où elle se met à courir, puis mettons, il y a un passant à côté d'elle, puis là elle crie, puis elle gueule, puis elle est plein de sang, puis là t'as le vent qui arrive, puis là, elle se penche au dernier moment, puis les passants sont juste décapités pendant qu'elle est encore en vie, et la caméra subjective c'est qui revient sur elle pour la repourchasser d'un autre angle. Donc là, t'es comme dans une espèce de scène qui a pas de bon sens. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est le vent qui tue tout le monde?
Un peu comme The Happening, là.
Ouais, un peu, ça. Exactement.
C'est The Happening rencontre genre Evil Dead, là.
C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Evil Dead, son cinéma, ce passage-là. Et ensuite, finalement, elle finit par balbutier, puis elle arrive jusqu'à l'école, et elle voit toutes ses amies qui sont là, qui vont à la journée comme d'habitude. Puis elle est comme en pleurs, les cheveux défaits, du sang sur elle. Puis là, elle comprend pas. Puis là, les gens lui demandent « qu'est-ce que t'as? » On dirait que t'as vu un fantôme. Donc, le film commence comme ça et il va vraiment vers plein d'autres zones, mais je vous dévoilerai pas. Mais c'est vraiment un film qu'on a du fun. C'est un film drôle, là. J'ai ri tellement de fois. De l'humour noir, évidemment. Il y a beaucoup
de sang. Ouais, c'est ça, parce qu'il vend quand même comme un film d'horreur. Mais tu sais, évidemment, Sion Sono, il va avoir de l'absurdité, de l'humour, beaucoup. Là.
Mais c'est ça, c'est vraiment pas un film qui est fait pour faire peur. Hein. C'est vraiment un film qui explore, en fait, les codes d'un certain cinéma et qui explore aussi les travers de la culture pop au Japon. Et puis, ce qui est intéressant de Sion Sono, c'est que il verse jamais vraiment dans la parodie parce que fondamentalement, je pense qu'il aime ce genre de cinéma-là. Il aime voir des écolières qui courent. Il aime voir un plan de petites culottes. Puis tu sais, on nage toujours entre incrédulité.
Il en a fait un film de 4 heures. Fait que...
Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis Tu te surprends pendant Tag à un moment donné être ému lorsque une scène de bataille d'oreiller sur le bord d'un lac entre écolières qui se racontent leurs désirs et leurs secrets tournés au ralenti te tire quasiment la larme de l'œil. Donc, Sion Sono, c'est un peu ça, c'est qu'il y a tellement une maîtrise de ce qu'il fait qu'il t'amène dans son univers, puis il sent, tu sais. Il s'en moque jamais totalement. Il y a toujours aussi un petit côté de lui qui dit « Ben, effectivement, j'aime ça, ce genre de scène-là. » Donc, ça, c'est mon gros coup de cœur. Puis, je suis convaincu là, que la moitié de la salle vont détester le film, mais que l'autre moitié va l'adorer. C'est un film qui va diviser, selon moi. Mais ça vaut la peine, ça vaut le coup d'œil, ça, c'est sûr. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça. Ça joue le 3 août à 21h45, Tag de Sion Sono. Et sur ça, ça fait pas mal le tour de nos coups de cœur du festival. On va enregistrer un autre podcast peut-être vers la fin du festival ou un peu avant ou un peu après, dépendamment de nos disponibilités. Justine, merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine.
Mon plaisir. Merci pour m'avoir.
Oui, toujours un plaisir. Et pour ceux qui veulent te suivre, on peut te suivre notamment sur Twitter. C'est @redroomrentings. Si vous n'êtes pas sûr comment l'écrire, vous pouvez chercher Justine Smith sur Twitter. Et on peut te lire... toujours sur Sound On Site régulièrement, ouais. Et de plus en plus dans d'autres revues et magazines en ligne.
Oui, exactement ça.
Et c'est ça, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landry. Ah oui, et puis avant, on va se quitter aussi sur la bande-annonce du film The End of the Tour de James Ponsoldt, qui est un biopic sur David Foster Wallace, un espèce d'auteur culte américain qui a sorti comme un gros roman, une grosse brique qui vient d'être traduite en français. Pour la sortie du film, et ça met en vedette dans le rôle titre, pas dans le rôle titre, mais dans le rôle de David Foster Wallace, Jason Segel, qui a vraiment de l'air d'être investi dans ce rôle-là, je pense, avec un tournant dans sa carrière. J'ai très hâte de voir ça. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landreau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
When I think of this trip, I see David and me in the front seat of his car. He wants something better than he has. I want precisely what he has already.
David.
Wallace.
Welcome to Minneapolis.
Hi, I'm David Lipsky.
Oh,
how are you?
Hi. Okay, David and David.
We only just met. He's writing a piece on the tour. What's this story about in your mind?
Just what it's like to be the most talked about writer in the country, that sort of thing.
You're like a nervous guy, huh?
No. I'm okay. How are you?
Because I'm terrified.
I gotta ask, what is with the bandana?
I know that it's a security blanket for me whenever I'm kind of afraid my head is gonna explode.
If we ate like this all the time, what would be wrong with that?
It's like good, seductive commercial entertainment, like Die Hard.
First Die Hard?
First Die Hard.
Great film.
Yes. No, it's a brilliant
film. The best.
Hey, isn't it reassuring to have a lot of people read you?
I think if the book is about anything,
yeah,
it's about the question of why. Why am I doing it? And what's so American about what I'm doing?
If they're responding to your work and your work is really personal, then reading you is another way of meeting you, isn't that right?
That's so good.
Thank you.
I don't know why you mean to me.
I think that if there's a sort of sadness for people under 45, it has something to do with pleasure and achievement and entertainment. Like a sort of emptiness at the heart of what they thought was going on.
I don't know.
I got a real serious fear of being a certain way. I treasure my regular guyness.
You don't crack open a 1,000-page book because you heard the author is a regular guy. You do it because he's brilliant.
What is with you?
What is with you?
I'm not so sure you want to be me.
Just be a good guy.
All the time.
The more people think you're really great, the bigger the fear of being a fraud is.
David thought books existed to stop you from feeling lonely. Living those days with him reminded me of what life is like. And the conversation is the best one I ever had.
It's me, talking into the tape recorder. I'm smoking, having just said I wouldn't smoke, I'm smoking. Just me and your tape recorder.